Slate Podcast.
Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Winnie, célibataire de 31 ans, qui se demande comment faire pour rencontrer l'amour et l'amitié, alors qu'on vient de la diagnostiquer au potentiel.
Bonjour Lucille, je m'appelle Winnie, j'ai 31 ans, célibataire depuis un moment, à tel point que je ne compte plus les années. J'ai appris il y a près d'un an que je suis au potentiel, surdouée. C'est à la fois un cadeau et un fardeau. Un fardeau car cette nouvelle arrive suite à un long questionnement sur les raisons de mon existence, après une période de dépression et d'extrême solitude dont je me remets tout doucement. Ce cadeau répond à de nombreuses questions, explique des situations incompréhensibles et pourquoi j'ai autant de mal à me faire accepter des autres et à gérer mes relations interpersonnelles. C'est cool, mais après, que faire? Un an est passé et je suis toujours au même point. Seule, sans amour, sans amis proches qui soient là pour moi, pour être à mon écoute, pour m'épauler, pour rire avec moi, alors que j'ai toujours été disponible pour eux. Un peu trop d'ailleurs. Certes, j'en sais plus sur moi depuis, mais je me rends compte que ça rend les choses encore plus difficiles. Désormais, je sais quelles sont mes limites, que j'avais longtemps ignorées. Je sais désormais que telle ou telle situation ou environnement m'insupporte. J'ai essayé d'aller vers les gens qui sont comme moi, mais c'est compliqué. On se comprend, mais on n'ose rien entre nous. J'ai essayé d'aller sur les applis de rencontre, mais là-bas, ce sont les apparences qui sont le plus important. Cela ne me convient pas. Je ne m'y sens vraiment pas à l'aise. En plus, étant une femme noire, ça rend encore les choses plus difficiles. Mais ça commence à être lassant. Pour sortir de ma dépression, j'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à me faire plaisir, sans attendre que ça vienne des autres, évidemment. Mais jusqu'à quand devrais-je vivre ainsi? C'est quoi la finalité? J'ai appris, et bien sûr, j'apprends toujours à m'aimer, et je m'aime, et aujourd'hui j'ai beaucoup d'amour à donner, mais il n'y a personne. Je ne sais pas où trouver cette personne ou ces personnes. Hâte d'entendre ces conseils. Merci.
Cher Winnie, j'ai envie de vous citer Céline Dion, qui dit dans sa chanson éponyme « On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change jamais vraiment, on triche. » Et je crois que tricher, c'est bien la plus sûre des manières de biaiser ses amitiés et ses amours. Vous n'avez rien à changer à qui vous êtes, Winnie. Je crois même qu'avec ce diagnostic, vous vous connaissez mieux que jamais et que vous pouvez ainsi vous présenter en toute sincérité au monde afin qu'il vous apprécie et vous respecte pour ce que vous êtes vraiment. Plus question de souffrir dans votre coin parce que vous aurez dépassé vos propres limites. Plus question d'arrondir les angles et, disons-le, de mentir sur vos sentiments et pensées réelles. Vous dites vous aimer. Mais je pense que vous n'êtes qu'au début de cette aventure-là, que cette acceptation et cet amour de vous-même ne peuvent être que bénéfiques à votre recherche de relations profondes avec les autres. Vous dites aussi avoir fait le tour des différentes manières contemporaines de faire des rencontres. Et si je rejoins votre avis sur l'aspect artificiel qui peut prédominer sur les applications de rencontres, je pense aussi qu'il y a une infinité d'autres moyens de rencontrer des gens. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous anime? C'est beaucoup plus simple d'entamer la discussion avec quelqu'un qui partage déjà nos centres d'intérêt. On ne compte plus les personnes qui ont fini par créer du lien, sentimental ou amical, après une discussion enflammée à propos de Star Trek, du concours national de pâté en croûte ou de géopolitique. Ce sont des questions simples auxquelles vous devez répondre. Qui je suis? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux présenter au monde en premier? Parce que c'est ce qui compte le plus pour moi. Que vous soyez surdoué et secondaire. Enfin, ça l'est comme d'autres composants de votre identité et de votre histoire. Vous êtes beaucoup de choses, et la plupart de ces choses sont des richesses. Elles vous permettent d'avoir un regard unique sur le monde, un regard qui mérite d'être partagé. De votre expérience de vie pour l'instant, au regard de quelques minutes de votre message, je ne sens majoritairement que du négatif. Vous pouvez d'ores et déjà décider de voir votre futur comme quelque chose de plus positif. tout simplement parce que vous avez la chance d'en savoir plus sur vous. Cela peut sembler être un peu simpliste de se répéter et de croire ces simples phrases, mais je peux vous assurer que cela fait souvent une différence. Je suis ce que je suis. Je suis une personne intéressante. J'ai beaucoup à apporter au monde. Ces mantras, ils peuvent vous accompagner au quotidien, dans les moments d'angoisse comme dans les moments joyeux. Ils prendront en fait même de la force et du sens dans ces moments de bonheur. On ne change pas, Winnie. Si Céline Dion le chante, c'est que ça doit être un petit peu vrai. Enfin, moi, je le crois. Et je vous invite, juste avant de vous tourner vers les autres, à vous apprécier pleinement pour tout ce que vous êtes, afin de présenter au monde une version sincère de vous, avec laquelle vous seriez en harmonie et que vous auriez envie de porter longtemps. Pour parler des problématiques des adultes surdoués, j'ai téléphoné à la spécialiste Monique de Kermadec, psychologue clinicienne, psychanalyste et autrice. Je lui ai d'abord demandé quelles étaient les difficultés rencontrées par les adultes surdoués quand ils décident de rencontrer des gens pour se mettre en couple.
Rencontrer quelqu'un pour se mettre en couple est toujours difficile. Je dirais que ça l'est pour tout le monde. Rencontrer quelqu'un sans savoir ce que ceci va donner est probablement facile. La perspective d'un couple complexifie déjà la démarche. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les applications, nous avons l'impression de pouvoir être plus facilement en contact avec des personnes nouvelles. Mais pour les adultes surdoués, ces applications ne sont que modérément utiles parce qu'ils ont une certaine façon d'être, un certain regard sur le monde. Et ils ne vont pas nécessairement retrouver le genre de réponse qu'ils attendent de la part de l'autre. Ceci vient, je dirais, de caractéristiques qui sont les leurs. On sait très bien que ce sont de grands idéalistes, des perfectionnistes, des hypersensibles. Ils sont, je dirais, assez complexes dans leur manière d'aborder la relation. Ça peut dérouter l'autre et ça peut rendre les premiers moments particulièrement, je dirais, maladroits ou, je dirais, peu engageants pour ceux qui n'ont pas l'habitude de les connaître.
Pour une personne surdouée, comment gérer son angoisse et ses questions dans la périlleuse phase de la drague ?
Alors, je trouve que la phase de la drague, en fait, c'est une formule très grand public et c'est un jeu pour attirer l'attention de l'autre, bien évidemment, qu'on a tous connu à tous les âges. Mais l'homme et la femme à haut potentiel se révèlent un peu maladroits parce que ce contact superficiel n'est pas tout à fait ce qu'ils recherchent. On en voit, par exemple, aller à des soirées, aller à des conférences. Et dans les premiers contacts avec des personnes qui les attirent, bien évidemment, ils sont toujours pleins de maladresse parce qu'ils ne savent pas de quoi ils pourraient bien parler. Et un discours superficiel, qui est celui de la drague, bien évidemment, est un discours qui les laisse un petit peu, je dirais, frustrés. Ils ont le désir de plaire, mais ils veulent avant tout trouver quelqu'un avec qui ça va être vraiment intéressant d'échanger, de discuter. Donc, quand ils se livrent au jeu de la drague, eh bien, les dés sont pipés d'avance parce que ils risquent d'obtenir ce que l'autre, je dirais, ne cherche pas. Et ce que l'autre obtiendra n'est pas non plus ce qu'il attend. Il y a une sorte de jeu de chat et de la souris qui a moins de chances d'aboutir avec eux, à moins qu'ils aient une véritable intelligence relationnelle et qu'ils aient un contact facile avec les autres. Ce n'est pas toujours le cas des hommes et des femmes surdoués.
Une fois qu'on a rencontré quelqu'un, est-ce qu'il est nécessaire de préciser qu'on est une personne surdouée ?
Ah, c'est une question qui m'est très souvent posée. Je constate que lorsqu'une personne qui a ignoré très longtemps sa véritable identité découvre enfin un mot qui met, je dirais, une image positive sur sa façon d'être, on a souvent envie de dire à l'autre « voilà », comme si on avait envie de donner à l'autre son mode d'emploi. Or, quand on ne connaît pas l'autre, on ne sait pas du tout l'effet que ça va produire. Parfois, hélas, au lieu de faciliter la relation, ça la rend plus complexe. Il peut y avoir un malentendu. Souvent, c'est « je t'en prie, cherche à me comprendre, je te dis que je suis surdouée, donc tu sais que je ne suis pas exactement ce que tu attends ». Mais ça peut être aussi une façon de dire à l'autre « et toi, est-ce que tu es surdouée aussi ? Est-ce que tu as même de me comprendre ? Est-ce que ton comportement est le même que le mien ?» J'ai envie de dire, quand on ne connaît pas l'autre, il vaudrait mieux ne pas l'annoncer tout de suite, parce qu'on ne sait pas du tout comment la situation va évoluer. Moi, je préconise toujours à ces hommes et ces femmes de parler d'eux-mêmes de façon à montrer cette intensité, à montrer ces traits de personnalité qui sont particuliers aux surdoués. Si l'autre est sensible, si l'autre a de l'empathie, il comprendra à qui il a affaire, il arrivera peut-être même à la conclusion qu'il ou elle est surdoué. Si par contre, l'autre ne arrive pas à cette conclusion et ne comprend pas, eh bien, il prendra le large et ce ne sera pas une grande perte pour les deux.
Serait-il plus simple de chercher à rencontrer directement d'autres personnes surdouées ?
C'est une question que l'on me pose à la fin de chaque conférence. Est-ce qu'un surdoué ne peut être heureux qu'avec un ou autre surdoué ? Et dans les faits, ça peut être le paradis ou l'enfer. Soit les deux surdoués vont vraiment très bien ensemble, et à ce moment-là, c'est une relation fort durable qui va faire face, je dirais, aux différentes épreuves de la vie de façon très positive. Ou alors, ces deux surdoués sont différents, car au-delà de notre intelligence, il y a aussi notre personnalité. Et si nous ne sommes pas compatibles, que l'on ait 130 et plus de QI ne va pas nous rendre nécessairement plus compatibles. Ce qui est important, c'est déjà de voir, par exemple, est-ce qu'un surdoué est quelqu'un qui est très extraverti et l'autre introverti ? Et là, nous allons avoir du mal, parce qu'il va y avoir des excès dans un sens et dans l'autre qui seront mal compris. Donc, moi, je vois des couples de surdoués qui, parfois, ont besoin, eux aussi, comme dans une relation avec un non-surdoué, ont besoin d'expliquer à l'autre, de donner leur mode d'emploi. Si l'autre est souple, si l'autre aime suffisamment pour tenir compte du besoin de cet homme ou de cette femme, eh bien le couple ira de l'avant. Je vois des femmes surdouées qui sont en couple avec des hommes qui n'ont jamais fait les moindres études et qui sont parfaitement heureuses. Je vois tous les cas de figure. Ce qui va compter, c'est l'écoute de l'autre, la qualité de la communication, le désir de partager. C'est une générosité envers l'autre et le partage de valeurs. C'est surtout ça qui va faire le bonheur d'un couple.
Ensemble, nous avons convenu que la pop culture délaissait trop facilement la problématique de l'adulte surdoué. À part le très caricatural Sheldon Cooper dans la série Big Bang Theory, peu de représentations permettent aux adultes surdoués et à leurs proches de comprendre un peu mieux leur mode de fonctionnement. Les livres de Monique de Kermadec, et en particulier le récent Le surdoué et l'amour, aux éditions Albin Michel, viennent remplir ainsi un vide dommageable.
Alors on a peu écrit sur l'adulte surdoué et l'amour. On a écrit sur les difficultés relationnelles des surdoués. Donc, c'est une manière peut-être indirecte d'aborder la relation et une relation plus intime. On n'a pas parlé, et c'est ce qui m'a donné l'idée personnellement d'écrire enfin quelque chose là-dessus, parce que cette intensité, cette exigence, je veux dire, quelle répercussion ça a lorsque nous cherchons à avoir une vie de couple et une vie satisfaisante en couple, quel que soit le couple que nous formons, qu'il soit traditionnel ou tout à fait, je dirais, différent de celui que la société nous recommande. Je crois qu'il y a beaucoup à faire là-dessus, c'est important de rechercher. L'amour tient une place fondamentale dans notre vie. C'est l'amour qui contribue à ce sentiment de bien-être profond que nous avons. Et nous avons besoin de trouver un partenaire, une partenaire, quelqu'un avec qui il y a un lien fort et proche. Les Américains ont commencé quelques études, il y en a très peu, j'y fais référence dans mon livre. J'ai été étonnée de voir que sur leurs études à long terme, même s'il y a une différence culturelle, dans les faits, les conclusions se rapprochent beaucoup de ce que j'ai pu voir au travers de mes 25 années de consultation avec des adultes surdoués. Nous ne pouvons qu'encourager des écrits, des témoignages, des recherches. Et je trouve que c'est merveilleux que vous en parliez dans votre émission parce que tant qu'on n'en parlera pas, on va rester avec des hommes, des femmes, de grands adolescents qui ne comprendront pas comment gérer leurs propres différences dans cette relation si fondamentale qu'est l'amour.
Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le film Will Hunting de Gus Van Sant, l'histoire d'un jeune homme des quartiers populaires, homme de ménage dans une fac de sciences, dont l'intelligence supérieure est révélée par un professeur de l'université. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.